et à 7h48, c'est la suite de notre édition spéciale consacrée à l'Ukraine avec vous, Léa Salamé.
Oui, on est toujours avec le député européen Bernard Guetta, ancien correspondant du Monde à Moscou. Bernard, merci d'être là. On sera également en ligne avec Pierre Servan, spécialiste des questions de défense. On essaie de le joindre à l'instant. Ça y est, Bernard, avec cette opération d'ampleur lancée à 4h du matin par Vladimir Poutine en Ukraine, on a basculé dans la guerre en Europe, on a basculé dans ce moment tragique.
Totalement, et la question est maintenant de savoir quand elle s'arrêtera. La question est vraiment, quand s'arrêtera-t-elle cette guerre ? Parce que M. Poutine, très bien, va conquérir l'Ukraine, il en a tous les moyens militaires, mais il va se heurter, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Demorand, il va se heurter à une résistance, d'abord militaire, puis de partisans, c'est absolument évident. Ce conflit va pourrir, ce conflit va faire, c'est affreux à dire, mais évidemment des dizaines de milliers de victimes. Et ce pays est à la frontière de l'Union européenne, en plein cœur du continent, Léa.
Pierre Servant, votre réaction également, spécialiste des questions de défense, je le rappelle, auteur de 50 nuances de guerre. On y est à présent dans le scénario qu'on redoutait. Les Américains nous avaient alertés depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On disait qu'ils mettaient de l'huile sur le feu. Mais en fait, Poutine a vraiment mis ses exécutions, ses menaces à exécution au cœur de l'Europe.
Oui, effectivement, et sans être complètement sur la ligne américaine, c'est aussi un scénario que j'ai annoncé il y a déjà plusieurs semaines, et je pense que Poutine a pris cette décision d'option militaire certainement à la fin de l'année dernière, et il nous balade depuis des mois avec des fausses séquences diplomatiques pour arriver à ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre dans ce qui se passe sur le plan strictement militaire ? Je pense que l'objectif de guerre, pour l'instant, de Poutine, c'est une conquête totale du Donbass. Vous savez qu'il n'y a que le tiers du Donbass qui est tenu par les sécessionnistes, et donc, avant de conduire cette opération et de pousser après le long de la mer d'Azov pour rejoindre la Crimée, il est en train de décapiter tout ce qui est un peu sérieux dans les états-majors, les forces militaires, les concentrations de matériel sensible comme les missiles anti-chars ou les drones armés que les Turcs ont fournis à l'armée ukrainienne. Et une fois qu'il aura fait le nettoyage, entre guillemets, de toutes ses capacités de rétorsion, il va véritablement rentrer dans le dur des opérations. Et je suis d'accord avec Bernard Guetta qu'on rentre là dans un cycle assez infernal. Il y a déjà donc plusieurs semaines que j'ai annoncé ce scénario. Beaucoup m'ont dit « mais tu es très pessimiste ». Mais non, pas du tout, ce ne sont que des manœuvres. Je vais pousser, je suis désolé pour les auditeurs d'Inter parce que c'est pas très rassurant, mais on peut craindre effectivement une extension de la guerre, non seulement à toute l'Ukraine si Poutine rencontre des difficultés, mais bien au-delà, compte tenu de la concentration des armements et des forces dans la région.
Bernard Guetta, êtes-vous aussi pessimiste, aussi alarmiste, pardon, que Pierre Servant, là ?
Ah, c'est pas de l'alarmisme, c'est du réalisme. Évidemment qu'il a raison et évidemment que je partage son avis, parce que une fois que l'armée russe aura conquis, aura passé, excusez-moi, la ligne qu'on appelle la ligne de cessez-le-feu entre les territoires du Donbass qui sont d'ores et déjà, depuis des années, contrôlés par les sécessionnistes soutenus par les Russes et le reste de ces deux grandes régions, eh bien évidemment qu'il y aura un affrontement direct entre les armées russes et les armées ukrainiennes. À quoi mène un affrontement direct entre deux armées nationales ? À une guerre qui s'étend.
Ouais. Pierre Servant, donc pour vous, ce qui va se passer, c'est-à-dire c'est une opération au sol dans tout le Donbass des Russes et une opération aérienne sur Kiev, si on parle un petit peu de stratégie militaire. Qu'est-ce que vous voyez dans les prochains jours ?
Écoutez, vous savez, ce type d'opération, d'abord on en a quelques exemples avec les Russes, aussi bien en Géorgie en 2008 que dans le mode de fonctionnement de l'armée russe en Syrie, c'est construit comme du papier à musique. Donc aujourd'hui, c'est le prologue. Le prologue, ce sont des frappes aériennes, des frappes de drones. Je pense des opérations spéciales de commandos russes qui sont allés sur les points sensibles, c'est-à-dire les nerfs, le nerf militaire de l'Ukraine, de façon à rendre les états-majors ukrainiens aveugles, sourds et privés de leurs moyens. Donc ça, c'est la première étape qui consiste, si vous voulez, à nettoyer le ciel. Donc les quelques avions ukrainiens, qui sont d'ailleurs d'anciens avions soviétiques, ont été détruits. Et puis, les états-majors ont été visés. Ils ont déjà été visés depuis plusieurs semaines par des cyberattaques, parce que si mon livre s'appelle 50 nuances de guerre, c'est qu'il n'y a pas que les opérations militaires, la guerre a déjà commencé par les cyberattaques, et puis une fois que Poutine considérera que véritablement, pardonnez-moi l'expression, mais l'armée ukrainienne a été émasculée hein, dans ses capacités de rebond, de construction, de contre-offensive, de rétorsion, à ce moment-là, vous aurez au sol véritablement l'engagement des groupes tactiques russes. Donc j'ai eu le temps ces dernières semaines, compte tenu de l'indifférence assez générale, à travailler sur le dispositif russe. Les Russes ont massé à peu près un tiers de leurs groupes tactiques russes. Ce sont des groupes qui sont constitués de différentes forces, des chars lourds, de l'infanterie mécanisée, de l'artillerie, des lance-roquettes multiples, des moyens du génie. Tout ça appuyé par l'aviation et les drones. Les Russes ont une technologie de drones extrêmement puissante. Et donc là, ils rentreront dans le dur, si je puis dire, mais après avoir considérablement réduit les capacités de résistance de l'armée ukrainienne.
Face à cela, que peut-on faire? Que doit-on faire? Que doit faire l'Europe? On rappelle les mots de Poutine cette nuit, qui a clairement menacé l'Occident. Je vous cite Vladimir Poutine. « Quiconque tentera d'interférer avec nous doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous, Occident, n'avez encore jamais connues. » Dans la nuit, les chefs de l'Union européenne ont réagi. Le Kremlin va devoir rendre des comptes, disent-ils cette nuit. Bernard Guetta, vous êtes député européen. Vous êtes député européen élu sur la liste d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous demandez au président?
Au président et à ses 26 partenaires, trois choses. Premièrement, des livraisons d'armes, évidemment, à l'Ukraine. Bien sûr, évidemment. Nous n'avons pas à intervenir, aucun citoyen de l'Union européenne ne le souhaiterait, à tort ou à raison. Nous n'avons pas à intervenir en Ukraine militairement, directement, mais des fournitures d'armes, certainement. Deuxièmement, sortir la Russie immédiatement, dans les 24 heures ou les 48 heures, du système des paiements internationaux, c'est-à-dire lui appliquer la sanction massive qui avait été appliquée à l'Iran pour des raisons bien moindres que ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Et puis, une troisième idée que je voudrais suggérer ici aux 27 dirigeants. Nous devrions faire une adresse, ils devraient faire une adresse au peuple russe, pour lui dire, mais nous ne voulons pas la guerre, nous ne vous menaçons pas, personne ne vous menace, nous voulons une seule chose, coopérer à la stabilité et à la prospérité du continent, et coopérer avec la Russie. Donc, arrêtez cet homme, arrêtez cette guerre.
Pierre Servent, quelle doit être la réaction des Européens? Hier, Joe Biden a dit, ils ont annoncé plusieurs sanctions aux États-Unis, à Washington, à Bruxelles, et à Londres également. Mais Joe Biden a dit, pas de soldat américain ne sera tué à Kiev. Alors quoi? Que peut faire l'Occident face à ça?
Effectivement, il n'y aura aucun soldat, ni européen, ni américain. Et je souscris totalement à ce que Bernard Guetta vient de dire. Alors les auditeurs vont peut-être être un peu surpris qu'on soit à ce point sur la même ligne. Peut-être parce que nous sommes tous les deux des anciens journalistes du Monde et qu'on a travaillé dans le même service, le service étranger.
En effet.
Mais il a totalement raison. Livraison d'armes. La France, pour l'instant, s'est refusée à le faire parce qu'elle a joué à fond la carte diplomatique. On peut pas la lui reprocher. Les Américains, les Britanniques, les Pays-Baltes ont déjà fourni de l'armement à l'armée ukrainienne. Là, il va falloir monter en puissance de ce côté-là. Toutes les sanctions économiques, toutes les pénalisations sur la capacité de la Russie à se refinancer à l'international, à traiter des affaires en dollars, il faut véritablement que ça soit très sévère. Et je rejoins Bernard sur l'adresse au peuple russe, parce que le peuple russe est intoxiqué depuis des années sur la thématique du retour de la Deuxième Guerre mondiale et des nazis.
Alors c'est ça, exactement. Je voudrais juste vous faire réagir sur les mots employés par Vladimir Poutine cette nuit, parce que je vous ai entendu Pierre Servent dire « il accuse les autres de ses propres crimes ». Quand il parle de dénazification de l'Ukraine, quand il parle de génocide en Ukraine, les mots sont extrêmement bien choisis par le président russe.
Tout à fait, et ça rentre dans un discours qui est très très ancien, depuis des années et des années, vous avez une espèce de construction mentale qui à mon avis est une forme de projection de l'enfermement mental propre à Vladimir Poutine, une forme de radicalisation qu'on a vue physiquement, notamment dans les conférences de presse où vous sentiez vraiment, l'Élysée a même parlé de discours paranoïaque, c'était vraiment la sensation que j'avais, et il est en train d'étendre cette paranoïa à son peuple en essayant de reconstruire l'idée que c'est une nouvelle guerre patriotique, celle contre l'envahisseur nazi qui est là. Le terme de génocide n'est pas du tout utilisé en vain, alors que c'est totalement absurde. Il explique qu'il y a un génocide au Donbass depuis 2014. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas le début du commencement d'une réalité, alors que c'est la Russie qui, en Syrie, ailleurs, est alliée de pays criminels comme le gouvernement de Bachar el-Assad. Et donc, pour revenir à la proposition de Bernard Guetta, le fait de s'adresser au peuple russe, il faut dissocier la mafia qui est à la tête du pouvoir au Kremlin, du peuple russe qui est manipulé, et essayer de faire fond sur les mouvements de résistance. Et la question que je me pose, c'est quel est l'état d'esprit de l'armée, des dirigeants, des responsables des services secrets, quand on voit la scène surréaliste d'il y a quelques jours, où Vladimir Poutine, pour se positionner en chef de guerre, les a réunis, les a humiliés, les a traités comme des petits-enfants, notamment le chef des services de renseignement russes. Est-ce que ces hommes vont accepter cela, vont voir leur pays rentrer dans une spirale chaotique? C'est la question qui se pose réellement aujourd'hui.
Merci Pierre Savant, merci Bernard Guetta, merci à tous les deux. À l'instant, la réaction d'Emmanuel Macron, qui dit que la France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La France est solidaire de l'Ukraine, dit Emmanuel Macron à l'instant. La France se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre, vient de déclarer le président français, qui est, on le rappelle, président de l'Union européenne pour encore 4 mois. Oui. Merci à tous les deux. France Inter.